Merci Bernard pour cet exposé riche en propositions, je dirais. Tu nous proposes des formules inhabituelles, transfert d'objets, transfert sur son propre travail, il y en a d'autres. Alors, je vais pour lancer la discussion, poser une question à chacun des intervenants, ou aux deux. Alors, Miyuki, moi je vais, vous aussi vous avez plusieurs points dans votre exposé. Moi j'ai retenu l'idée de, parce que c'est une formule parlante, l'idée de cet analysant, l'idée de définir l'analysant, plutôt que de définir l'analysant, de le situer au début et à la fin de la cure. Donc au début, vous proposez de considérer qu'il s'agit d'un croyant, au sens où il croit à l'inconscient. Donc c'est vraiment l'idée de la croyance en l'inconscient, le croire à l'inconscient, qui est au centre, me semble-t-il, de votre exposé. C'est aussi présent, très présent dans l'exposé de Bernard Lominet. Donc vous proposez de considérer qu'au début, l'analysant est un croyant insoumis. Insoumis parce que il lui arrive de ne pas se soumettre à la règle fondamentale, de ne pas la respecter. Et il me semblait qu'en fait, cette insoumission était, je dirais, cohérente avec la croyance, parce qu'elle montre que la croyance, je dirais, n'est pas absolue. Ce qui, dans la définition propre de la croyance, est le cas, me semble-t-il. Alors, cet analysant, donc cet incroyant, ce croyant, il ne faut pas que je fasse de lapsus là, ce croyant insoumis du départ, à la fin, vous proposez de le considérer comme un incroyant soumis. Et alors, je me suis dit, mais incroyant, c'est un terme un peu brûlant pour nous, parce que l'incroyance, ça fait penser bien sûr tout de suite à l'Unglauben de Freud. Donc l'incroyance du paranoïaque, ce n'est pas ce que vous voulez dire, ce n'est pas ça que vous pensiez. Je vous dis mes associations au moins quand je vous ai lu. Bon, mais ce n'est pas pour rien que ça vient. Je me suis dit, mais un incroyant, j'ai essayé de vous suivre, vous dites très bien que pour vous, ça a trait à la certitude. Donc il s'agissait pour vous de dire, il est un croyant, gardons un croyant entre guillemets, pour ne pas le confondre avec l'autre. Il est un croyant au sens où il a la certitude de l'existence de l'inconscient. Il est assuré quant à l'existence de l'inconscient. Et alors, la question là, aussi bien de l'incroyance que de la certitude, me semble devenir très intéressante, parce que si on fait, dans la paranoïa, l'incroyance et la certitude, ça va bien ensemble. C'est justement l'incroyance qui permet au sujet d'être dans la certitude. Vous me suivez? Donc, ce qui me paraît extrêmement intéressant, c'est que j'ai pensé à la définition, m'est venue à l'esprit la définition que Lacan donne à l'occasion de la certitude. Il me semble que c'est dans le séminaire 11. Frédéric Pellion va pouvoir sans doute acquiescer ou contredire ou compléter, puisqu'il s'agit d'un passage où Lacan parle de Descartes. Il parle de la certitude cartésienne, il compare avec la certitude freudienne, et il dit là quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, que je trouve très, très pertinent, c'est que la certitude n'est jamais une position acquise. C'est-à-dire qu'on essaye d'atteindre à la certitude, mais il emploie le mot ascèse. C'est une ascèse. C'est-à-dire que ce n'est jamais une position acquise une fois pour toutes. Et dans ce cas, il me semble qu'on peut tout à fait l'entendre avec cette référence à la fin de l'analyse et à une forme d'assurance de l'existence de l'inconscient, mais comme certitude à reconquérir tout le temps. Auquel cas, elle se distingue très aisément de la certitude du paranoïaque, qui, elle, ne bouge pas. Alors, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que j'avais noté là, oui, parce que j'avais aussi pensé au fait que l'inconscient, dit Lacan, à la fin, l'inconscient reste autre, toujours. Hein, l'inconscient reste autre. Alors, est-ce que votre idée, ce serait que celui qui croit à l'inconscient, pour vous suivre dans l'idée de la croyance, dans la définition de ce que c'est qu'analysant, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, et j'adresse la question du coup en même temps à Bernard, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que celui qui croit à l'inconscient reste psychanalysant ou peut rester psychanalysant, hein? Voilà ce que je vous proposerai. Et alors, j'ajoute un petit mot à Bernard. Question qui m'est venue, je ne suis pas sûre d'avoir bien suivi tout ce que tu argumentais sur ce point, mais il me semble que nous avons à distinguer le croire à l'inconscient du croire au sujet supposé savoir. Ce n'est pas du tout la même chose. Tu es d'accord? Bon. Alors, si tu es d'accord, est-ce que tu dirais que croire à l'inconscient, c'est-à-dire y être abonné, rester abonné à l'inconscient, est à distinguer de croire au sujet supposé savoir, puisque justement, croire à l'inconscient n'implique pas du tout de devoir supposer à ce savoir un sujet. Hein ? Voilà, pour commencer. Donc, s'il y a tout de suite des questions, je vous passe tout de suite le micro et nos intervenants répondront ensuite. Déjà, Françoise, Jocelyn, au premier rang.
Alors, je remercie Miyuki d'avoir joué sur le incroyant, insoumis, du côté du 1. C'est-à-dire, est-ce que le sujet, du début à la fin de sa cure, peut passer de la croyance à l'autre, à la certitude de l'un tout seul? Est-ce que Lacan dit que le seul athée, c'est la psychanalyse, parce qu'il ne croit pas à l'autre, il n'y a plus d'autre, de grand autre. Hein? Enfin, voilà, c'est là-dessus que ma réflexion est portée. Donc, on peut jouer aussi bien sur la coupure entre un croyant et un soumis, de les rapprocher ou de les diviser, selon la façon dont on parle de l'un et de l'autre.
Alors, une autre question ici. Pardon.
Tu voulais poser une question?
Merci pour vos exposés, plein de questions, et je vais essayer de focaliser les choses. J'aime bien l'idée de la croyance, plus loin comme ça, j'aime bien l'idée de la croyance, et du coup je me suis demandé comment on pouvait dire ce à quoi croyait l'analysant. Et je vais vous proposer une réponse qui m'a été inspirée par vos exposés. L'analysant est quelqu'un qui croit qu'il a le choix. Qu'il a le choix dans les actes de sa vie, qu'il a le choix dans ce qu'il peut dire. Or, justement, la règle de l'association libre, c'est on ne peut pas se dédire. Il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Et donc, est-ce que le je n'en veux rien savoir dont parle Lacan n'est pas justement ce je n'en veux rien savoir de la jouissance? C'est qu'on n'a pas le choix de sa jouissance, effectivement. Et autant au départ, l'analysant croit au sujet supposé savoir interpréter l'inconscient, autant effectivement à la fin, l'analysant sait qu'il y a un inconscient auquel il est soumis. Il a beau essayer de toutes les insoumissions qu'il veut, la marque de la jouissance est imprimée.
et il n'a pas le choix. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Et par rapport à l'exposé de Bernard, deux questions. La première, finalement, il te le dit, ce garçon, qu'il se sent petit. Il te le dit et il le redit dans son rêve. C'est un peu comme ça que tu nous le présentes. Mais finalement, quel est l'intérêt de cet équivoque? En quoi est-ce une interprétation? En quoi est-ce que ça apporte quelque chose au travail de sa cure, puisqu'il le sait déjà qu'il a souffert? Il y a quelque chose qu'à mon avis, il faut préciser. Et la deuxième chose qu'il faut préciser aussi, je suis globalement d'accord avec ce que tu as dit sur le transfert de travail, la critique que tu as faite de cette idéalisation d'un transfert, etc. Cela dit, ça a déjà fait l'objet d'un débat il y a fort longtemps, comment tu distingues ce que tu as dit du transfert de travail sans la présentification du dispositif du sujet supposé savoir interpréter dans la cure? Comment tu distingues donc ce transfert de travail de l'auto-analyse?
Alors, il y a 1, 2, 3...
Oui, non, mais peut-être qu'il répond.
Vous voulez répondre tout de suite? Miyuki?
Si, si, après, sinon...
Miyuki n'est pas pressé, on passe finalement le micro d'abord à Bernard. Pour une réponse brève, Bernard, parce qu'il y a beaucoup de questions en attente.
Oui. Bon. Par rapport à ta question, Sol, oui, bien sûr, c'est exactement ça que j'ai essayé d'articuler. La différence entre croire qu'il y a un sujet supposé au savoir qui manque, hein, et être, plutôt que croire, moi je préfère la terminologie de Lacan, être dupe. Il dit dupe de l'inconscient, hein, il dit qu'il faut être dupe de l'inconscient. C'est le seul savoir qu'on a à se mettre sous la dent. Être dupe. Et dupe, ça me plaît bien parce qu'il y a un côté dans le être dupe qui résonne pour moi avec ce qui est essentiel, beaucoup plus que la croyance, et c'est un point soulevé par Miyuki, c'est la soumission. Je pense que tout est là, effectivement. Se soumettre, accepter, comporte en soi la trace d'une jouissance qui est dans des mots et qui n'est pas articulable dans un savoir. Ça, c'est une soumission, et c'est cet acte de soumission qui, à mon avis, caractérise le désir de l'analyste, qui, du coup, peut être l'agent qui met au travail un qui n'est pas encore soumis à ça, qui pense effectivement qu'il a le choix, etc. Ce que mon patient disait, justement, dans ses préliminaires, c'est qu'il voulait choisir. Il voulait choisir, et un coup, il choisissait un côté, et quand il avait choisi un côté, il trouvait les raisons de choisir un autre. Là, il est sorti quelque chose, justement, dans la méprise, c'est-à-dire, effectivement, bien que ça n'ait rien articulé de nouveau, pour lui, ça a eu beaucoup d'effet, et moi aussi, j'ai été saisi par ce truc-là, parce que ça décalait les choses, on n'était plus dans la psychologie, on n'était plus en train d'essayer d'expliquer, tout d'un coup, il y avait quelque chose qui s'imposait d'ailleurs, et qui l'engageait sur cette voie de se soumettre à ses effets d'une parole qui surgit en disant des bêtises. Hein? Bon, je peux quand même préciser que c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec la psychanalyse. Hein? Mais rien du tout. Hein? Jamais lu Lacan, ni rien du tout, ni même Freud. Hein? Voilà. Alors, maintenant, pour la question de l'auto-analyse, c'est une sacrée question. Je pense que ça pourrait y ressembler de loin. Sauf que je pense que celui qui arrive à transférer sur son propre travail, c'est le résultat de tout ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire, ça veut dire supposer que quand j'écris quelque chose, il va en sortir quelque chose qui ne sera pas la répétition de ce que tout le monde a déjà dit 1000 fois, et que peut-être que c'est à chacun de travailler, parce qu'il n'y a pas forcément toujours un autre pour baliser la voix, pour avoir dégagé des choses avant. Hein. Celui qui fait la passe, c'est vraiment ça. On ne fait pas la passe si on ne suppose pas qu'au travers de son expérience, en décryptant ça, il va surgir quelque chose qui sera transmissible d'une façon presque insaisissable et qui aura des effets dans la communauté. Hein ? Je le pense comme ça. Donc, auto-analyse, non, parce que ce serait très long à développer, mais je crois que... Bon, d'abord, c'est la question... qui a fait couler beaucoup d'encre hein, sur Freud, évidemment. Parce que s'il y en a un qui a fait une auto-analyse, c'est Freud. Et en même temps, on voit bien qu'il y avait une adresse transférentielle. Hein. Il y a eu Fliess, après il y en a eu d'autres. Hein. Il y avait une adresse transférentielle. Mais bon, je ne pourrais pas en dire beaucoup plus là, mais pour moi, c'est vraiment très clair que ce n'est pas une auto-analyse. Hein. Ce n'est pas une auto-analyse. Ça a plutôt à voir avec ce que Lacan dit. C'est un truc que je trouve tout à fait fondamental. C'est dans Les non-dupes. Il dit « Le savoir, ça s'invente ».
Oui.
C'est-à-dire que le savoir, ça s'invente, ça veut dire que finalement... C'est à chacun d'inventer quelque chose. Et inventer, ça veut dire que c'est se risquer à produire quelque chose et à être confronté à cette question qui peut être angoissante, vertigineuse pour certains. Ce que j'ai dit là, ce que je viens d'inventer, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui le savait avant ? Vous savez que Lacan dit que c'est en général le point qui fait déclencher la psychose chez les savants, hein. Chez Cantor, etc. Hein.
Alors, je ne vais pas pouvoir répondre. Hein, je vous remercie de ces réflexions qui vont me donner encore l'occasion de travailler, parce que j'ai l'air d'avoir dit des choses assez assurées. Ça a été pour moi plutôt un exercice de style et de travail auquel je me suis soumise, hein, où j'ai accepté la proposition de participer. Juste pour dire à Sol, oui, j'ai bien penser à la question de la structure sur que la croyance ne pouvait pas être la même, la certitude entre le sujet névrosé et notamment la paranoïa. Maintenant, c'est vrai que c'est pas l'axe avec lequel ça n'a pas été mon interrogation, puisque moi d'emblée, en fait, quand j'ai vu le thème de l'école, je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir dire là-dessus. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai hésité sur aller lire les cures de Freud pour voir, n'ayant pas fait j'ai pas fait de tranche avec un freudien, voir ce qu'il en serait entre un lacanien et un freudien. Et puis en fait, je me suis dit mais comment moi je suis arrivée. J'étais une fervente croyante, en l'inconscient, en l'autre et au savoir de l'autre. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu finalement déplier. C'était cette croyance avec laquelle moi je suis rentrée en analyse et finalement qui reste au travail. Voilà.
Très bien. Alors, croire à l'inconscient, moi je pense qu'on peut garder l'expression de Freud, que Lacan a d'ailleurs reprise,
quand il se lamentait du fait que l'analyste ne veut pas croire, les analystes ne veulent pas croire à l'inconscient pour se recruter. Hein? Bon, alors, j'ai trois questions. D'abord ici Patrick Barillot, ensuite Frédéric Pellion, et ensuite c'était Irène. Il me semblait qu'il y avait une main levée de ce côté-là.
Oui, c'est bon. D'un point que vous avez abordé tous les deux dans vos exposés respectifs, c'est Lacan analysant. Donc Bernard, tu as pas mal développé cette question-là. Miyuki, tu l'as juste un petit peu effleuré au passage. Néanmoins, je trouve que ça pose la question de l'analysant hors analyse. Alors, la question que j'adresse à Miyuki, c'est à partir de la question que tu t'es posée de quoi le sujet est-il l'analysant, tu as pris la référence dans encore de Lacan se disant analysant de son je n'en veux rien savoir. La question qui m'est venue, c'est est-ce que le je n'en veux rien savoir de Lacan analysant est le même que le je n'en veux rien savoir de l'analysant dans la cure? C'était le premier étage de la fusée de ma question. Après, je me suis demandé, mais bon, comme toute question, on doit avoir... où ai-je ma réponse à la question que je te pose? Et mes revenus... Alors là, je te demande, parce que toi, tu as lu le passage encore et que je ne l'ai plus en tête, que Lacan dit à ce moment-là que, justement, qu'il s'agit, que son « je n'en veux rien savoir » n'a rien à voir avec le vôtre. Donc, bon, c'est pour ça que la question m'est venue. Est-ce que tu pourrais différencier, justement, situer où est la différence? Bon, alors, c'est encore mieux. Bon. Donc,
on a consacré toute une séance de séminaire ici à cette première page d'encore, il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Oui, ça n'empêche qu'on peut revenir.
Il est toujours là, il faut déterrer le...
Bon, écoute, si c'est quelque chose qui t'inspire par rapport à cette question, ou à une autre question qui s'adresse à Bernard, c'est, tu as dit justement dans cette position de la canalisation, ce qu'il mettait au travail était son auditoire, et après t'as amené les remarques de Lacan lui-même sur les plaintes qui n'étaient pas, comme tu dis, de la coquetterie, du grand nombre de personnes présentes, jusqu'à ce rêve où il rêve qu'il n'y ait personne. Et j'ai quand même l'impression qu'il y a un paradoxe. Si c'est l'auditoire qui est le moteur de la tâche analysante de Lacan, comment peut-il arriver quand même à se plaindre de la présence si nombreuse de cet auditoire jusqu'à rêver qu'il n'y ait personne? Non, mais c'est...
Il interprète son rêve, il répond. Frédéric? Et tu dis que ça, je ne sais plus comment les rouler.
Ben oui, c'est ça.
Comme les rouler, c'est dans encore aussi. Frédéric?
C'est plutôt une... Non, enfin, j'ai une toute petite question pour Miyuki, mais toute petite. Je crois avoir entendu dans ton exposé supposition inconsciente de savoir, ou alors j'ai mal entendu, mais si c'était le cas, j'aurais aimé peut-être une explication de la formule, mais peut-être ça n'y est pas, hein. Donc la question à ce moment-là se réduit à rien finalement. Et puis j'en profite que j'ai le micro parce que pour signaler que à propos de transfert de travail de transfert et tout, il y a un très très joli passage sur cette question qui est un passage indirect dans le chapitre, enfin la partie que Safouan consacre à Ranke dans son livre sur la psychanalyse, enfin le dernier, le gros là, tu vois Marc. Et sa foi fait jouer les deux expressions pour interroger la position de Rand, qui était le secrétaire, hein, pour, je rappelle, qui était en position de secrétaire particulier de Freud et qui n'a jamais été analysé par Freud, sauf quand c'était trop tard, si je peux le dire ainsi. Et Sappho pose la question d'une sorte d'aveuglement de Freud par rapport à l'amour que rend que la dévotion, disons, ou la croyance que Rank lui portait. Et pour commenter ce point, il fait jouer les deux termes, l'un contre l'autre, transfert de travail ou travail de transfert.
Oui, moi par rapport à ce que vous avez dit, Bernard Dominique, je me posais la question de, au fond, cette difficulté à la fin de l'analyse, enfin après, donc l'analysant après la cure, au fond de cette question du grand autre, dont vous dites qu'on est orphelin, et par exemple dans une institution, enfin plutôt dans une école de psychanalyse, je trouve qu'il y a une difficulté à s'en passer aussi de l'autre. C'est-à-dire qu'au fond, le transfert de travail dont on parle, je pense que c'est aussi essayer de travailler cette question-là. Je trouve que c'est ce que vous dites, bon, que chacun essaie de produire son propre savoir, soit, mais je trouve qu'il y a quand même une tension entre ce constat qu'on a fait à la fin de l'analyse, être orphelin de ce grand autre, et puis la difficulté de s'inscrire dans une école par rapport à cette expérience. Je trouve qu'il y a une tension là. Bon, voilà.
Alors,
je vais répondre à ça. D'abord à Patrick, moi je le vois pas le paradoxe. Je le vois pas le paradoxe. C'est pas de gaieté de cœur qu'on est travaillé par l'objet A. Rien du tout. Et c'est une exigence. Et je pense que vraiment, je vois pas comment on peut s'expliquer autrement, si on met de côté la coquetterie, que Lacan, mais vraiment très souvent, se plaint de ce qu'il y a du monde, de ce qu'il y a trop de monde, et qui fait ce rêve, effectivement, que vous n'étiez plus là. Hein, c'est-à-dire, je vais un peu souffler. Je ne vois pas le paradoxe.
Bernard, si je peux, tu peux voir une seconde. Si je me souviens bien du passage, Lacan dit, ajoute, qu'il n'y avait personne. Ce qui me permettait de me les rouler, parce que quand même, j'avais travaillé jusqu'à 4 heures du matin.
Oui.
Donc cette adresse, que ce soit le regard de Freud ou le public, cette adresse a fonctionné pour lui jusqu'à 4 heures du matin.
Oui, oui, oui. Oui.
Quand même.
Oui, oui, oui. C'est bien là qu'on voit que l'objet petit A est un semblant. C'est comme semblant qu'il met au travail de la division de Lacan. Hein, c'est sûr. C'est un semblant. Parce que, comme tu dis, il a travaillé jusqu'à 4 heures du matin. Après, donc. Hein? Mais peut-être à part. Si, je pense à partir. Il ne le dit pas, mais on a tous plus ou moins fait l'expérience de ça. Enfin, moi, j'écris ce que je dois exposer, je l'écris quelques jours avant, jamais plus tôt. Et donc, j'y passe des morceaux de nuit. Et je m'endors quand je suis tranquille. Tant que je ne suis pas tranquille, je ne m'endors pas. Je m'endors quand je suis arrivé à une phrase qui me fait respirer. Et si je reste sur un truc, je ne m'endors pas. Alors, la question. Écoutez, moi, je rêve d'une école d'orphelins. Et à vrai dire, par moments, je la rencontre. Par moments, je la rencontre. Et je la rencontre dans les moments, par exemple, dans le cartel de la passe. Dans le cartel de la passe, quand on écoute et qu'on laisse de côté tous nos préjugés, hein, qu'on est soumis à la logique de ce qu'on entend, et si quelque chose amène à une conviction, on dit oui. Et moi, je trouve que ce oui engage. Ce oui engage. Et si, au moment de dire oui, on se dit « Ah oui, mais qu'est-ce qu'ils vont penser ?» On a nommé ce type, etc. C'est foutu. C'est foutu parce que justement, on n'est pas orphelin de l'autre. Or, dans ce moment du cartel de la passe, théoriquement, le passant doit être orphelin de l'autre. Sinon, il vient de demander une simple reconnaissance. Ça ne va pas. Si les passeurs ont été désignés correctement, ils sont sur le fil du rasoir d'être orphelin de l'autre. Et le cartel doit aussi être dans cette place-là. Et à ce moment, l'école, c'est ça. C'est ça l'école dans ce moment-là. Et c'est une école d'orphelins de l'autre. Et c'est ça, finalement, que Lacan a choisi comme garantie. C'est très fort. Par moment.
Voilà, c'est par moment. Ben oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est-à-dire c'est par moment, ça.
C'est pas pour tous. C'est
voilà,
chose.
Voilà.
Mais l'école, c'est.
C'est ça, c'est cette mise au travail, il me semble. Oui. Qui est...
Attendez, il y a Miyuki qui va répondre. On te passe le micro tout à l'heure, juste un instant. Juste un instant.
Alors, est-ce qu'il y a une différence?
Miyuki voulait répondre. Peut-être pas la discussion là en cours ou remarques qui m'ont été faites à Patrick, donc sur la différence du je n'en veux rien savoir de Lacan et de son auditoire. Bernard m'avait fait la remarque quand je lui avais proposé mon texte en me disant que j'oubliais la deuxième partie, mais que j'avais volontairement moi mis de côté. Donc je ne vais pas pouvoir y répondre. Marc parlait de l'analysant qui, enfin, que le sujet est insoumis à l'inconscient. Moi, j'ai marqué l'analysant soumis aux lois du langage. En fait, au début, j'avais mis l'analysant insoumis, donc en deux mots, soumis au signifiant. Et quand j'ai fait quelques lectures, je suis tombée sur que c'était ce qui définissait la position du débile, que c'était que le débile était soumis était le sujet soumis au signifiant. Alors je me suis dit qu'il fallait peut-être pas que je m'engage sur cette voie-là au séminaire école. Donc j'ai modifié mon tout ce débile. Voilà. Mon sous-titre à Frédéric, en fait, c'est je reprends dans la proposition de 67, l'algorithme du transfert, où en fait, ce qui s'entend dans cet algorithme, c'est que la supposition de savoir, elle n'est pas du côté de l'autre, mais dans l'inconscient du sujet. Voilà. Et qu'elle est supposée, voilà, supposée dans l'inconscient de l'analysant. Ce qui allait pour moi avec l'analysant qui croit en l'inconscient, qui a qui a l'idée que son inconscient c'est quelque chose pour lui, que le savoir il est là.
Alors, on va passer la parole à François Jocelyn.
Je me demandais si c'était une école d'orphelins ou une école d'athée. Est-ce qu'il y a une différence? Ou une école de débiles, c'est-à-dire le débile est un rusé, dit Lacan. Alors, la ruse, est-ce que c'est de faire semblant d'objet? Je ne sais pas. Ce qui est la position de l'analyste. Il n'est pas l'objet, il est semblant d'objet. Alors, l'athée, c'est celui qui peut se passer de l'autre. Alors, quelle est la différence avec l'orphelin qui, de fait, n'a pas d'autre, n'a plus d'autre. D'accord. Hein ? Voilà. Voilà.
Je te passe la parole.
Marc Strauss ?
Oui, je voudrais reprendre un peu les choses par un autre biais. Finalement, on insiste là sur cette solution analytique qui est de croire à l'inconscient sans croire à son interprétation exhaustive, disons. Il y a un reste et on insiste beaucoup, avec raison, sur les effets d'apaisement que ça a, puisque l'irréductible, au lieu d'être impuissance, patati patata. Cela dit, nous n'en sortons pas moins, Lacan y compris, jusqu'à 4h du matin, fortement les uns et les autres tracassés. Qu'est-ce qui nous tracasse donc tant? Question de poser Lacan à propos des philosophes grecs de l'Antiquité, mais qui se pose aussi dans nos associations, et que chacun de nous se pose, et que les nouveaux venus se posent, et qu'il se manifeste ce phénomène de tracas d'un tas de manières. Donc je pose cette question-là. Et la deuxième, si vous me donnez 30 secondes pour délirer. Pas plus, promis. Enfin, au moins en pensant que j'ai le choix. Oui, en écoutant l'équivoque du aluminium, je me disais qu'il y avait évidemment la problématique de taille, avec ce que j'évoquais de la problématique phallique. Pardon ? Mais je me dis, ça m'a rappelé aussi mon enfance avec Mickey Mouse, et je me suis dit que Mini, c'était aussi un prénom de femme, et que Mini Homme, c'était finalement un signifiant qui venait marquer l'indétermination qu'il veut entretenir, justement. Et que lever, d'une part, la problématique phallique du pas assez grand, etc., n'est pas suffisant, effectivement, et qu'il a tout le travail d'élaboration à faire pour arriver à faire éclater son mini d'un côté et son homme de l'autre, parce qu'il n'y a pas de rapport sexuel, même s'il y a mini-homme.
Alors, il est justement là-dessus, et d'une façon très, pour moi, très complexe. Hein. Il a l'idée qu'il voudrait vraiment se rapprocher le plus possible de son être féminin, ce qui pose de gros problèmes à sa copine, qui elle a envie qu'il reste un homme. Mais il avance là-dessus avec un certain courage, et justement une part de soumission à son inconscient. Ça ne guérit absolument pas sa division, ça ne lui fait pas choisir du tout. Ça ne lui fait pas choisir du tout. Alors il s'est fait faire une épilation extraordinaire, il est devenu totalement imberbe, et par moments, il disparaît, je ne le vois plus, et puis il revient 6 mois après, un peu plus féminin. C'est compliqué. Non, c'est extrêmement complexe. Pas en parler en public comme ça, mais on casse la tête sur ce cas-là. Effectivement, dans le mini-homme, tu peux tout à fait délirer là-dessus. Il y a quelque chose qui en fait, il voudrait être les deux. hein, qui fait rapport. Il voudrait à la fois être le phallus, c'est-à-dire une jolie femme, sans le perdre, c'est-à-dire en le gardant, en l'ayant. Hein, il veut les deux, et au fond, c'est la meilleure définition que Lacan donne de la castration, c'est qu'il faut choisir entre l'avoir et l'être. Hein, la fonction de phi de x, il dit ça dans Oupir, c'est la fonction de la castration. Hein, parce que si vous l'avez, vous ne pouvez pas l'être, et si vous voulez l'être, vous ne pouvez pas l'avoir. Hein. Donc lui, il se maintient, justement, d'une façon très, très tenace, là-dessus. Hein. Ce qui ne lui donne pas, curieusement, qui ne lui donne pas une typologie perverse, dont on pourrait penser, tu vois, un style travesti, etc. Il n'y a rien de ça. Et ce qui ne... À mon avis, ce qui ne préjuge pas d'une psychose, alors que par moments, je me suis demandé, enfin, qu'est-ce que c'était cette histoire ?
Mais tu considères que c'est un analysant ?
Ah oui. Un analysant courageux et qui me
demande... Un analysant courageux.
Courageux et qui me demande à moi de me tenir correctement.
C'est la moindre des choses. Bon, chers amis, nous allons mettre fin à cette deuxième séance et je vous donne rendez-vous pour la troisième le 7 janvier. Nous nous reverrons pour ce séminaire le 7 janvier.